Bonjour et bienvenue dans cet audio. Il sera question de notre relation avec nos fondations ancestrales. Nous allons commencer par une grande métaphore qui va nous aider en fait à développer un petit peu voilà toutes les idées que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, j'avais envie de vous parler du fait que nous sommes venus au monde avec une âme bien définie. Alors cela va dépendre énormément de nos croyances, de notre système religieux dans lequel nous sommes nés, mais on va dire qu'on va essayer de dépasser tout ça et qu'on va prendre par la main cette idée d'âme qui vient s'incarner, que l'on y croit ou pas, parce que du coup j'ai un petit peu tout basé là-dessus, donc ce sera beaucoup plus facile si tout le monde adhère, en tout cas adhérer le temps de l'histoire de ce petit conte que je vais développer avec vous. Et après, vous reprendrez bien entendu votre croyance à vous à la fin de l'audio. Voilà. Je reprends donc. Alors, on va partir du fait, du principe que nous sommes venus au monde avec une âme bien définie. Personnellement, je l'imagine ronde et lumineuse, très lumineuse. Pourquoi ronde? Parce qu'elle contient tout en elle et qu'elle est parfaite. Elle contient tout ce dont elle a besoin pour exprimer sa nouvelle incarnation. Et lumineuse parce que, eh bien, elle est pleine d'amour. Voilà. Puis nous sommes nés, eh bien, dans un pays, dans une culture, dans une classe sociale, dans une famille. Chacune d'entre elles, chacune de ces strates, va donc se composer d'une union de tout ça, d'une union d'énergie, et donc au final, d'une énergie particulière. Selon nos croyances toujours, hein, on peut même penser que cette énergie particulière a été choisie avec soin par notre âme. C'est-à-dire les conditions idéales pour expérimenter ce que notre âme avait besoin d'expérimenter pour, je ne sais pas tout à fait pour tout vous dire, mais j'imagine que c'est une évolution que notre mental ne peut évidemment même pas saisir, même pas approcher. Voici donc le point zéro que je vous invite à définir dans votre esprit, le point zéro de notre histoire personnelle, c'est-à-dire notre arrivée en tant que petite boule d'âme parfaite dans une strate d'énergie bien définie. Et dans cette strate où tout était censé être parfait pour nous, pour notre incarnation, eh bien, nous nous sommes heurtés au manque d'amour. C'est-à-dire au manque d'amour que l'on voit, que l'on reçoit. Et petit à petit, comme ça, nous avons commencé par faire des expériences scientifiques. Voilà, nous étions dès le début des scientifiques. C'est-à-dire que nous avons ajusté nos agissements et nous avons regardé les conséquences de cet ajustement. Et nous en avons tiré des conclusions. Tel acte nous permettait de recevoir de l'amour, des câlins, des bisous, de l'attention ou une écoute. Était l'autre, eh bien, nous en dispensait totalement. Voire même, pire, nous apportait du mal-être, de la douleur. Depuis le moment zéro, nous avons eu soif d'amour. C'est un espèce de besoin vital dans lequel nous baignions jusqu'alors, l'amour. Et ce besoin-là, tout d'un coup, était coupé de nous. Et nous faisions donc très naturellement tout ce qui nous permettait de recevoir de l'amour, certes imparfait, pas comme celui dans lequel nous baignons, un amour matériel. Et même si cela ne correspondait plus à notre boule bien ronde à l'intérieur de nous. Alors, peu à peu, les couches entourant notre boule, on va dire que ce sont nos corps, eh bien, ils ont changé d'aspect par rapport à ce qu'ils étaient au début. Ils sont devenus de plus en plus imparfaits, car nos actes ne provenaient plus de notre cercle parfait, mais de nos strates imparfaites. Et si un ou deux petits changements comme ça ne pouvaient pas causer quelque chose de grave, passer la moitié de sa vie à nous ajuster à nos strates qui changent, évolution d'école, de boulot, d'amis, d'amants, etc., 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 eh bien, nous perdions totalement de vue l'idée même de ce à quoi pouvait ressembler notre boule parfaite et nos corps. Et nous voyons bien que tout cela a commencé par l'ajustement à notre toute première strate, à notre tout premier clan, notre foyer, lui-même dépendant de notre famille. Maria Montessori a prouvé que les jeunes enfants étaient de véritables éponges. C'est tout simplement instinctif chez eux, chez notre ancien nous aussi, parce que c'est une question de survie. Il faut s'adapter pour avoir de l'amour matériel et que cet amour matériel nous nourrisse, mais aussi vraiment dans les faits. C'est-à-dire que notre mère, si elle ressent de l'amour pour nous, va nous nourrir physiquement. Donc c'est véritablement une question de survie. Et donc pour ça, nous avons pris des décisions très, très jeunes, à quelques jours de naissance, à quelques mois, et souvent avant nos 7 ans. Des décisions, on s'en rend bien compte, dont nous n'avons aucun souvenir, mais qui à l'époque nous ont bien servi, puisqu'ils nous ont permis de vivre, de survivre. Et nous devons bien reconnaître ce point-là. À ce moment précis, ces décisions ont eu quelque chose à voir avec notre survie. Un rire, un mot qui a été plus accepté qu'un autre, qui nous ont valu plus d'amour, nous ont permis de survivre. Et il y a peut-être même des décisions comme ça que nous avons prises pour rendre hommage à un ancêtre. Cela a pu être inconscient, mais il est aussi fort possible qu'une action que nous avons faite a rappelé un ancêtre chéri, à notre famille, à nos parents, qui nous ont donc donné plus d'amour à ce moment-là. Et nous avons adopté ce comportement. Peu à peu, toutes ces décisions nous ont éloignés de notre véritable nature. Mais nous ne devons pas nous en offusquer, nous fâcher à ce propos, nous devons finalement les remercier, car elles nous ont permis d'arriver jusqu'ici, en vie, et d'avoir assez d'amour pour pouvoir survivre. Nous devons bien comprendre tout cela, et puis surtout accepter d'avoir un jour, même si nous n'en avons aucun souvenir, fait un choix, un acte, un renoncement d'une part de notre responsabilité, de notre personnalité, pardon, au nom de l'amour. Alors oui, c'était vraiment un amour imparfait, un amour matériel, mais c'était quand même de l'amour, ou en tout cas ce qui ressemble le plus ici sur Terre. Donc finalement, nous avons créé notre ombre par amour. Et nous pouvons en tirer comme conclusion que la déesse noire est, comme toutes les autres déesses, une déesse de l'amour. Et passons le tout en accéléré sur notre histoire personnelle et revenons à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons tellement placé de choses dans notre ombre que nous sommes perdus. Il n'y a pas eu qu'un seul ou deux petits changements mineurs, comme je le disais. Non, il y en a eu des centaines, voire des milliers. Des gros, des petits. Et nous arrivons à un moment de notre vie où, nous ne nous aimons plus tout à fait nous-mêmes parce que nous avons remplacé la quasi-totalité de la boule d'amour parfaite par de l'amour imparfait. Et nous sentons bien, nous avons la sagesse de comprendre que tout l'amour imparfait que nous avons reçu jusqu'à maintenant ne nous a jamais contentés. Et nous sentons aussi, nous nous souvenons qu'il fut un jour dans notre histoire, à l'avant de ce moment zéro, à l'avant de notre naissance, où nous n'avions pas soif d'amour. L'amour, nous nagions dedans. À ce moment-là de nos vies, aujourd'hui, nous ressentons l'appel de la déesse noire. Elle nous a fait descendre et augmente notre soif de savoir spirituel. Mais alors pourquoi fait-elle ça? Pourquoi la descente? Par amour? Nous l'avons vu, et aussi pour nous faire comprendre que nous avons à rechercher des petits bouts de nous comme ça, comme pour reconstituer le puzzle de ce que nous sommes, pour reconstituer cette boule d'âme à l'origine de notre naissance, cette boule parfaite, le schéma le plus parfait que nous avons connu sur Terre, celui qui se rapproche le plus de notre bain d'amour d'avant. parce que finalement c'est un morceau de lui. Maintenant, si on prend de la distance sur tout ce que je vous ai dit, on se rend compte que notre âme est un bout de puzzle du grand amour, selon les croyances, hein, du grand mystère, du grand univers, de Dieu. Et voilà, cette âme parfaite est un bout de puzzle. Et comme je vous l'ai dit, ce bout de puzzle, eh bien nous-mêmes, nous l'avons découpé en plein d'autres petits bouts. Et nous avons fait, en gros, un puzzle de 1000 pièces à partir d'une pièce de puzzle. Voilà. Et en plus, nous avons caché ces petits micro-éléments dans notre inconscient. Waouh, pas de panique, ne vous inquiétez pas. Comme lorsque nous résolvons un puzzle, une pièce va mener à une autre. Plus nous avançons, plus l'assemblage va nous paraître simple. Et en plus de cette faculté à reconstituer la grande image, eh bien, nous sommes aidés par nos guides, par notre inconscient, comme si finalement, eh bien, nous avions à disposition la solution du jeu. Jusqu'ici, vous avez déjà dû retrouver des pièces de puzzle. Ce sont les pièces peut-être les plus accessibles, celles que nous avons remisées en dernier, hein, qui sont les plus simples à retrouver parce qu'elles sont au-dessus du tas. Les éléments que nous avons placés dans notre ombre avant nos 7 ans, on va dire qu'ils sont vraiment moins faciles à trouver. Notamment parce que nous n'avons pas le souvenir de l'avoir fait, nous ne savons même pas où chercher, ni la forme de cette pièce de puzzle. Et aussi parce que nous avons tellement entassé les pièces, tellement tassées, qu'elles se retrouvent tout au fond. Mais ce sont ces morceaux-là, ces morceaux d'en bas, ceux qui nous permettront sans doute de mieux résoudre l'ensemble du problème. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que toutes les pièces de puzzle n'ont pas la même taille. Ce n'est pas du tout un puzzle comme on en achète. Toutes les pièces sont différentes. Les plus gros morceaux sont coincés en bas. Arrivés jusqu'à ce jour, nous sommes désormais plus aguerris. Nous sommes en jour 15, 16, 17. Voilà. On sait maintenant comment mener ce genre de recherche aventureuse. Nous savons où chercher, ce à quoi elle ressemble et comment ensuite traiter. Pour pouvoir ajouter les bouts les plus petits que nous avons trouvés jusqu'ici, il va nous falloir maintenant rechercher les gros bouts. Les premiers que nous avons cachés. Si l'on veut, ce sont les racines de notre puzzle. Voilà, quittons donc ce puzzle métaphorique et rattachons-nous maintenant à cette idée de racine. Vous voyez sans doute ce que j'essaie de tisser dans notre esprit pour arriver à comprendre pourquoi nous disons que notre arbre généalogique est nos racines, nos fondations. C'est à la fois pour cette histoire de strate d'énergie dans laquelle nous sommes nés pour permettre à notre âme de faire le meilleur boulot possible sur Terre, et à la fois pour cette histoire de grosses pièces de puzzle. Nous avons vraiment besoin de retourner dans cette place, dans cette strate d'énergie pour comprendre ce que nous sommes vraiment. Nous avons besoin de nos racines et de nos fondations pour faire tenir notre soi-arbre, notre soi-maison. Et ici, je vais faire un petit aparté avant d'aller plus loin. Parce que vous aurez peut-être eu l'idée en écoutant mon histoire, et vous en avez certainement entendu parler, ce sont les enfants téflons aussi normés, enfants étoiles, enfants bleus, etc. Ce sont des âmes qui sont venues maintenant depuis plus de 50 ans sur Terre et qui ne se permettent pas, ou en tout cas bien moins que les autres, de tomber dans le changement de ce qu'ils sont pour avoir l'amour de leur entourage. Ce sont des enfants têtus, que l'on dit difficiles, des enfants remuants, hyperactifs. Ils sont là à la fois pour nous montrer comment rester dans notre perfection et aussi pour mettre un terme à certains cycles de généalogie, c'est-à-dire de se plier à ce que veut pour nous notre famille, sans discuter. Il y a dans cette histoire-là, comme partout, une essence de dosage également, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que vous soyez ici, c'est-à-dire à faire ce travail, parce que vous-même, vous êtes un enfant téflon, un guérisseur de lignée. Peut-être pas autant que les nouveaux enfants, hein, que la nouvelle génération hyperactive, mais tout de même. Et il se peut certainement que vous ne vous soyez jamais senti tout à fait à votre place dans votre famille de naissance, alors que vos frères, sœurs, cousins, cousines, eux, étaient tout à fait acceptés et acceptants de leur position dans cette famille. Vous avez certainement pu ressentir une certaine inadéquation, etc. Le besoin de ne pas vous plier tout à fait pour appartenir à ce clan, d'être coincé vraiment entre deux volontés. De ne pas renoncer tout à fait à ce que vous êtes, quitte à trouver peut-être plus tard une autre famille avec qui on se sentirait plus en phase. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas voulu tout mettre ce que vous êtes dans votre ombre pour faire partie de cette famille, de ce clan. Peut-être aussi avez-vous moins soif d'amour car vous étiez encore suffisamment connecté avec votre boule d'amour intérieur, peut-être. Ou peut-être que vous sentiez que l'amour imparfait matériel n'était pas ce dont vous vouliez vous nourrir. En tout cas, il est toujours plus facile de faire le travail de l'ombre lorsque nous nous sentions inadaptés, parce que nous avons mis moins de choses dans l'ombre. Nous avons plus résisté à tout déposer là-dedans au nom de l'amour des autres, parce que notre amour de nous-mêmes était peut-être plus fort, plus proche, plus connecté, comme je le disais. Mais quel que soit le chemin que nous prenons, nous finissons tous par faire ce travail, que ce soit dans cette vie, à n'importe quel âge, ou peut-être même dans la prochaine. C'est pourquoi il ne faut pas non plus s'inquiéter pour toutes les personnes de notre famille que nous aimons, mais que nous rejettent parce que nous sommes différents. Cette différence, ils la ressentiront aussi, soit plus tard, hein, soit encore après. Il faut accepter que nous ne pouvons pas faire ce travail pour eux. Nous ne pouvons pas les sauver, si nous voulons les sauver, si nous avons une âme de sauveur. C'est une connexion que notre soi doit faire avec notre personnalité, c'est un travail que nous seuls pouvons faire. L'ombre est donc vraiment, vraiment un travail d'acceptation très intense. Accepter à la fois là où nous en sommes nous, et accepter là où les autres en sont. Accepter d'avoir créé déjà à la base une ombre, accepter tout. Mais pour accepter, il faut illuminer, il faut voir. Pas forcément comprendre, parce que le mental ne peut pas tout saisir, mais au moins mettre en lumière. C'est pourquoi vous pouvez peut-être ressentir des choses et ne jamais comprendre pourquoi vous avez ressenti cette émotion. D'où vient-elle ? De votre lignée, de votre passé ? Oui, parfois. Mais il faut aussi accepter que peut-être il y a des choses que vous ne saurez jamais. C'est ça aussi l'ombre. Comprendre que notre soif de savoir, qu'il soit intellectuel ou spirituel, est une soif du mental. Oui, j'ai dit que la déesse noire est la déesse de la sagesse. Mais attention, la Sophia, pas l'Athéna, qui est le savoir intellectuel, langagier. Mais ce qu'elle révèle peut échapper au mental. Ça, c'est difficile pour notre ego de l'accepter. Et puis un jour, tout d'un coup, nous ne réagissons plus lorsque nous voyons un événement qui nous mettait dans tous nos états auparavant. Un viol dans un film, un renard écrasé au bord de la route, un SDF que l'on croise, un enfant squelettique d'Afrique, etc., etc. Et pas parce que nous avons perdu une part de notre humanité, mais parce que nous avons guéri notre blessure intérieure que nous avions mise dans l'ombre. Attention, je parle ici de réagir de façon outrancière, hein, vraiment une réaction, et pas de simple émotion à la vue de telles atrocités de la vie. Voilà, notre ombre cause bien des réactions, j'insiste. C'est-à-dire des actions réflexes que nous ne maîtrisons pas à 100%. Elles sont animées par des blessures qui ne sont pas guéries. Et nous appuyons là où ça fait mal, nous voyons des choses qui nous font mal. Tout comportement, personnalité que nous avons mis dans notre ombre est une blessure. Parce que nous avons blessé notre boule âme parfaite en la rendant imparfaite, en la démontant bout par bout, chaque pièce de puzzle qui se détachait de l'autre causait une blessure. Une blessure qui ne peut jamais guérir tant que les autres pièces qui l'entourent ne sont pas retrouvées et mises en place. C'est pour cela que la théorie du miroir marche si bien pour le travail de l'ombre. Parce que nous cherchons la pièce de puzzle en trouvant la blessure. ça fait mal, c'est qu'il y a un morceau encore perdu. Et nous avons des blessures familiales d'autant plus fortes que les pièces sont grosses, c'est-à-dire qu'elles impactent elles-mêmes d'autres pièces, plus de pièces. Et nous arrivons à un tel stade de douleur parfois que nous refusons de voir, parce que ça fait vraiment trop mal. Les petits bouts là qui sont anodins, qui font une petite douleur, une petite émotion, ça va. Mais les grosses douleurs. La recherche dans la lignée est donc une recherche vraiment douloureuse, la plus douloureuse. Nous ne pouvons pas nous dire que nous souhaitons arrêter notre travail ici, que nous avons déjà fait pas mal, voilà, on peut se reposer, etc. Et bien non, parce que simplement notre âme, dès notre première descente, ne va plus que faire une seule chose, retrouver les morceaux coûte que coûte. Et c'est Carl Gustav Jung qui disait que l'on passe la moitié de sa vie à se perdre, à se créer un persona, c'est-à-dire des masques, et l'autre moitié à se retrouver, à se défaire de ces masques. La vie, notre âme, ne nous lâchera pas. Elle passera par la théorie du miroir en faisant venir dans nos vies des événements, des gens, des rencontres qui vont appuyer là où ça fait mal. Elle va tout faire pour réactiver les blessures encore et encore jusqu'à ce qu'on en ait marre, jusqu'à ce que ce soit trop et qu'on en ait marre d'avoir mal. Et ça peut aller loin, dans les maladies, dans les accidents, vraiment la douleur jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Au point que nous soyons prêts à affronter la douleur de base, la première blessure. Et comme je le disais tout au début, ce sont des blessures dues à la strate de naissance, les blessures de notre enfance, les blessures de notre généalogie. Et finalement, ce travail de nettoyage de nos racines, finalement de nos fondations, est vraiment la base de la base, car il permet aussi d'accepter notre incarnation, d'accepter d'être venu sur Terre. Ce n'est pas le sens qui nous manque, parce que du coup, avec tout ce qu'on accède aujourd'hui, on comprend qu'on est un petit peu ici pour évoluer, ou alors pour faire quelque chose, créer, etc. Et ce sont ces blessures-là qui nous séparent de notre acceptation. Accepter notre incarnation, c'est la base, le tournant de notre vie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de mettre au clair notre ascendance, pour accepter. Pour le reste de notre vie, nous avons besoin d'une base solide, qui nous permettra d'exprimer ce que nous sommes pour enfin renouer avec notre boule d'âme et voir ce qu'elle aurait pu faire dès le début si elle était restée parfaite. D'ailleurs, vous avez peut-être reçu un message à ce propos dans la méditation active de la porte noire. Sinon, eh bien, ou alors si vous souhaitez creuser encore, nous ferons un autre voyage à ce sujet dès demain. De toute façon, n'oublions pas que nous traversons la porte noire tous les mois en tant que femme, et que notre période de règles fait ressurgir des émotions anciennes, et là on peut se rendre compte qu'elles nous appartiennent peut-être même pas. Cela nous donne un tout autre regard sur les hauts et les bas que nous ressentons lors de cette phase de saignement. Nous ne comprenons peut-être pas d'où viennent nos sentiments, et souvent parce qu'ils sont dénigrés par notre entourage, les hommes parfois aussi, pas toujours. Et maintenant, nous sommes peut-être arrivés à ne les considérer que sur des hauts et des bas hormonaux. Et on ne les prend plus du tout en sérieux en se disant « Ah, ce sont mes hormones qui me jouent des tours » et puis on n'y réfléchit pas. À la place, il est peut-être temps maintenant d'accueillir ces émotions et de chercher à comprendre peut-être leurs origines. Il suffit parfois de mettre toute notre attention à leur endroit, parce qu'on dit aussi que là où on met notre attention, eh bien on met aussi la lumière. Et si vous en avez la possibilité, posez énormément de questions à vos ascendants, à vos parents, pour vous décrire au mieux les personnalités de vos aïeux, pour rendre votre arbre généalogique eh bien, plus personnel, plus vivant. Quels ont été les événements de la vie de vos grands-parents, arrière-grands-parents, les histoires, les légendes qui les entourent? Et puis souvent aussi, beaucoup, des drames qui les ont entourés. Il est possible que les émotions vécues en période de règles soient les leurs, appartiennent à cet arbre généalogique, qui par les décisions que vous avez prises vous ont mis dans des situations de blessures pour les ressentir. C'est très compliqué. Mais ce que vous ressentez permet de ressurgir pour être guéri à la fois vous, mais aussi votre lignée, en ne donnant pas ces blessures à vos enfants et petits-enfants. En tout cas, elles risquent de continuer à ressurgir, ces blessures, tant qu'elles n'entreront pas au cœur de votre attention. Et ce que ça induit, ce sont donc de transformer vos actions en réactions. Voilà. Bien sûr, il se peut aussi simplement que ce soit vos émotions à vous, hein, qui, à votre passé personnel, qui ressurgissent lors de votre phase de règles, et que vous avez placé là dans votre ombre. Hein. Mais alors, que ce soit l'une ou l'autre chose, au lieu de se sentir démonté, eh bien, moi, je vous invite plutôt à pousser un grand « Ouais, yes !» Parce que finalement, la moitié du chemin est fait. La rencontre est là, l'émotion est là, elle se présente à nous sans qu'on ait besoin comme ça de mettre nos mains dans la grotte et de chercher la blessure en forme d'or. Voilà, c'est une véritable chance, un confort extraordinaire. Oui, une chance d'être une femme dans nos règles. Et en attendant le voyage de demain, vous pourrez peut-être trouver différents éléments encore plus personnels, parce que du coup je fais beaucoup de généralités dans les audios pour toucher tout le monde. Eh bien, je vous invite déjà à commencer la recherche en répondant à quelques questions. Avez-vous réussi à trouver votre place dans votre famille? Pensiez-vous au contraire parfois vous être trompé de famille à la naissance? Avez-vous dû faire des actes et actions pour trouver votre place dans votre famille? Existe-t-il des clans à l'intérieur de votre famille? Faites-vous partie de l'un d'entre eux? D'aucun? Êtes-vous en bon terme avec tous les membres de votre famille? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui a amené ça? Avez-vous pardonné, si besoin était, à des membres de votre famille pour certains événements passés? Êtes-vous du genre solitaire ou est-ce que vous aimez au contraire à appartenir à un clan? Acceptez-vous d'être vulnérable avec les autres? Préférez-vous adopter un masque au contraire? Et si oui, combien de masques avez-vous? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de grave si vous vous montriez tel que vous êtes à votre famille ou avec d'autres clans, d'autres communautés? Que pourriez-vous perdre ou au contraire gagner si vous sentiez que vous appartenez à un clan? D'ailleurs, quelle serait votre communauté parfaite, la communauté idéale pour vous? Quels obstacles avez-vous rencontrés dans le passé qui fait que vous vous maintenez en dehors de toute communauté aujourd'hui, si jamais c'est le cas? Arrivez-vous à vous faire entendre de vos amis, de votre famille? Que pourraient vous apporter les autres? Que pourriez-vous leur apporter à eux? Et que pourriez-vous leur apporter sans vos masques? Connaissez-vous une personne qui a été rejetée par une de vos communautés? Et si oui, pourquoi? Et vous, comment l'avez-vous pris? Qu'avez-vous ressenti? Qu'est-ce que le fait d'appartenir à une communauté exigerait de votre part? Seriez-vous prêt à le donner ou non? Quelles sont vos peurs réelles d'appartenir à un clan? Voilà, je remettrai toute cette question sur la page de l'audio. Essayez vraiment de répondre à chacune d'elles en vous mettant au cœur de votre vérité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça vous le savez maintenant. Mais voilà, recherchez dans la vérité ce qui va peut-être vous mener à comprendre là où vous en êtes aujourd'hui. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la suite de notre aventure. Et je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt !